L'Empereur, c'est moi, c'est un livre sorti aux éditions Iconoclaste et une pièce de théâtre sur l'autisme de et par Hugo Auriot. De sa naissance à l'adolescence, cette pièce est jouée ce jour sur l'île Dieu à 19h30 au Casino. Bonjour Hugo Auriot.
Bonjour.
Ça va bien, en pleine forme?
En pleine forme, comme toujours sur l'île Dieu.
Bonjour Christine Bittner.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association APEDS.
Oui.
C'est l'association des parents d'élèves en difficulté scolaire sur l'île Dieu.
Oui.
Hugo Auriot, le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que ce syndrome?
Alors déjà, il faut savoir que le syndrome d'Asperger a disparu des classifications internationales, parce qu'on parlait d'Asperger pour désigner les autistes qui arrivaient à accéder à une certaine autonomie, ou des fois qui montraient certaines capacités extraordinaires. Aujourd'hui, il est plus juste de parler, si on veut être correct au niveau scientifique et au niveau des faits, de spectre autistique. C'est-à-dire que l'autisme étant extrêmement large, finalement...
Plusieurs sortes d'autisme, c'est ce que vous dites.
Oui, il y a plusieurs sortes d'autisme, plusieurs degrés d'autisme, des autismes qui sont associés à du polyhandicap, d'autres pas. Mais il y a surtout plusieurs manières de l'accompagner, mais il faut aller évidemment dans un côté éducatif. Et tous les autistes qui n'ont pas accès à une stimulation suffisante et un programme éducatif vont de plus en plus rester enfermés sur eux-mêmes et isolés. Et c'est pour ça que la classification Asperger était assez fausse, puisque finalement, on l'utilisait pour désigner en disant, lui, il s'en est sorti, donc il arrive à avoir une vie autonome, donc il est Asperger. Mais alors qu'en fait, finalement, ça veut dire qu'il y avait plein d'Asperger qui s'ignorent. Donc, c'était pas très juste de parler d'Asperger. Voilà, c'est pour ça que la classification Asperger a disparu.
Donc, au jour d'aujourd'hui, on dit juste autiste.
On peut dire autiste ou on peut parler de spectre autistique. C'est, disons que c'est la manière la plus, la plus juste et la plus globale de parler des autistes.
Et dans votre cas, Hugo Auriot, vous étiez prisonnier de votre esprit, c'est bien ça? À votre naissance et à l'adolescence.
Mais je dirais aussi prisonnier aussi du regard des autres, beaucoup, parce que souvent ce qui empêche les autistes d'accéder à une vie autonome, c'est le fait qu'ils sont exclus aussi spontanément, qu'il y a une incompréhension totale autour de ce syndrome qui nous conduit à hospitaliser souvent, à faire un traitement d'ordre, on va dire purement psychiatrique, des fois même médicamenteux. Il y a beaucoup de dérives. Et c'est cela qui crée réellement l'isolement. Et en effet, une personne autiste n'a pas vraiment les armes, contrairement à d'autres, pour pouvoir communiquer. Mais tout ça, c'est un apprentissage qui doit se faire de manière plus adaptée pour les autistes, de manière des fois plus poussée. Mais l'isolement vient du regard des autres avant tout.
Il faut être boosté, on peut dire ça comme ça.
Oui, il faut être stimulé, il faut aussi être dans un programme aussi éducatif. Alors il y a plein de choses qui existent depuis longtemps. Depuis les années 70 déjà, aux États-Unis, il y avait les méthodes comportementales, développementales qui ont toujours recours aujourd'hui. Si on regarde sur l'autisme à l'étranger, dans la plupart des pays européens, aux États-Unis, au Canada, entre 80 et 100% des enfants autistes sont scolarisés. Ils sont inclus à l'école avec un programme, une auxiliaire de vie scolaire qui vient, parce qu'évidemment, on ne laisse pas l'enseignant seul face au handicap. Et en France, ils sont à peine 20% à être scolarisés. Bon, il y a une exception notable sur l'île Dieu où là, ils sont scolarisés beaucoup plus facilement parce que le contexte insulaire fait que les personnes se connaissent et on voit que ça marche. Mais en France, en effet, beaucoup d'enfants autistes sont carrément exclus de l'école. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, on a une espèce de discours comme quoi le handicap, en général, et ça dépasse même l'autisme, le handicap n'aurait rien à faire en milieu ordinaire. On est en France.
Ça fait peur ce que vous nous dites.
Ça fait très peur, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où on veut cacher le handicap, où on veut le mettre à part, le ghettoiser. Et donc ça commence dès le plus jeune âge à l'école, où les droits fondamentaux des enfants handicapés et autistes en particulier sont bafoués, puisque on leur interdit les portes des écoles, alors que ceci est totalement hors la loi. Une école qui refuse votre enfant autiste, il faut le savoir, est hors la loi. Et le droit français fonctionne bien, et donc dans ces cas-là, vous faites un procès et les procès se gagnent.
Vous dites autisme, mais autre handicap, ça fonctionne aussi.
Bien sûr.
Et 20%, comment ça s'explique?
Cela s'explique par le lobby très fort de la psychanalyse en France, qui a contaminé tout le secteur psychiatrique, ce qui fait qu'on n'applique pas une psychiatrie basée sur de la science et sur des preuves, une psychologie clinique, mais davantage basée sur du dogme psychanalytique. Et donc du coup, forcément, l'autisme, on va s'en fier à des vieilles thèses que plus personne dans le monde scientifique aujourd'hui auxquelles ne donne de crédit, qui sont les thèses de Bettelheim, c'est-à-dire que l'autisme serait une forteresse vide due à des mers trop chaudes ou trop froides, tous les maux dont on accusait ma mère et dont on accuse encore aujourd'hui, en 2016, les mères et les parents d'enfants autistes. C'est-à-dire qu'on va prétendre que l'autisme est dû on va dire, à une famille nocive autour des autistes, que ça aurait déclenché l'autisme, alors que c'est génétique. Et que donc ça demande un accompagnement. Et donc il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, toute cette mécompréhension donc dépasse le secteur psychiatrique et va même jusque dans les services sociaux, les travailleurs sociaux de la petite enfance, de l'ASE et compagnie, qui, en plus, au niveau de la loi, devant un juge, n'ont pas à se justifier, à apporter la preuve de ce qu'ils disent. Donc s'ils disent la mère, la famille sont psychogènes pour l'enfant, ils ne sont pas censés, au regard de la loi d'ailleurs, apporter la preuve de ça. Et donc des parents vont se retrouver accablés et donc on est dans le pays où on a le plus de placements abusifs d'enfants. C'est un fait. On a beaucoup de placements abusifs et donc d'enfants notamment concernés par l'autisme. Beaucoup d'enfants autistes sont victimes de placements abusifs aujourd'hui en France et c'est une situation qui doit absolument cesser. Il est temps que le législateur se pose sur la question et apporte des réformes sérieuses à ce niveau-là. On a été pointé par l'ONU à ce niveau-là. L'ONU a pointé la France ce mois de janvier pour poser justement des questions sur toutes ces dérives qui commencent à être un peu trop visibles. Et les réponses de la France n'ont pas été extrêmement satisfaisantes. On sent qu'il y a quelque chose à déterrer. On pratique encore aujourd'hui des tortures, des choses dignes de la torture, comme le packing aussi aujourd'hui, qui a été abandonné depuis bien longtemps.
C'est quoi le packing ?
Le packing, c'est une technique d'enveloppement qui consiste à envelopper un enfant dans des linges froids trempés à 5 degrés.
Ça existe toujours.
C'est orchestré par le professeur Pierre de Lyon à Lille, sous couvert d'essais cliniques. Ce monsieur n'a toujours pas fourni de résultats, alors son étude a été reconduite depuis. Ça fait 8 ans que c'est reconduit et il n'a toujours pas fourni de résultats. On attend les résultats, mais le problème, c'est que les résultats sont inexistants parce que cette méthode n'apporte rien. Cette méthode est basée sur du dogme. Cette méthode n'a aucun crédit scientifique et on continue de l'appliquer sous couvert d'essais cliniques, qui est la seule faille juridique pour pouvoir continuer à l'appliquer, puisqu'il faut savoir que cette méthode est également illégale et officiellement interdite.
La méthode qui fonctionne le mieux, c'est vraiment est avec les personnes qui...
Alors pour parler d'un processus général, moi personnellement je n'ai pas de méthode à vendre, je ne suis lobbyiste d'aucune méthode particulière, mais après...
Non mais je vous pose la question, comment vous en êtes sorti surtout ?
Justement, c'est que ma mère s'est toujours battue contre les institutions pour que je sois inclus en milieu ordinaire. C'est-à-dire j'ai toujours été scolarisé, et ce qui était très dur parce qu'il fallait se battre contre l'état d'esprit du corps enseignant qui est dans l'état d'esprit qui ne veulent pas voir de handicap, que pour eux le handicap doit être en dehors, être parqué quelque part, donc ma mère a dû se battre contre ça.
Dire caché, non ?
Et même caché, oui, on cache le handicap, oui, on cache le handicap, et donc à l'école, moi, on voulait me cacher, on voulait me mettre en dehors, et donc ma mère a dû se battre pour que je sois, pour me stimuler de manière permanente. Elle m'a orienté vers beaucoup aussi d'activités extrascolaires, comme la musique, le sport,
théâtre,
finalement, il y a eu le théâtre, oui.
Et votre mère, comment elle a ressorti les choses quand le médecin lui a dit, votre fils est autiste ?
Alors déjà, ce qu'on lui a dit, c'est qu'on lui a dit, en France, on refuse de poser un diagnostic précoce. C'est-à-dire que l'autisme, on peut le diagnostiquer vers 18 mois, 2 ans, un professionnel, on va dire, sérieux, compétent, peut diagnostiquer l'autisme. Et ensuite, ce diagnostic est censé donc déboucher sur un protocole d'accompagnement et non d'enfermement, comme on le fait chez nous. Moi, je n'ai pas eu de diagnostic précoce. C'est-à-dire que ce qu'on a dit à ma mère, on a dit, votre fils, non, il est pas autiste, ça doit sûrement être une psychose infantile, mais voilà, il est pas autiste, mais par contre, on vous propose quand même de le garder avec nous à l'hôpital de jour, parce que, voyez, votre enfant, il est bien plus malade que n'importe qui. Voilà, c'est ce qu'on a dit à ma mère, et heureusement, ma mère ne les a pas écoutés, parce que si elle les avait écoutés, il aurait fallu attendre, parce qu'en fait, ils voulaient attendre jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire le moment où il faut aller à l'école, sans faire aucun accompagnement, pour dire si... Toujours à 6 ans, il est toujours comme ça, dans une non-communication, non-verbale. Là, peut-être, on pourra être sûr que c'est de l'autisme, mais à ce moment-là, quand vous faites ça, vous perdez un temps précieux. Et donc, ma mère ne les a pas écoutés. Elle a refusé de signer la décharge d'accompagnement à l'hôpital de jour, qui des fois peut être très tentante, parce qu'en effet, tout est remboursé par la Sécu. Ça coûte très cher, mais c'est inefficace, mais bon, c'est remboursé. Contrairement aux méthodes, d'ailleurs, comportementales ou éducatives ou développementales, que la plupart des parents sont obligés de se payer en complètement libérale, ce qui est scandaleux, alors que ces méthodes, pour le coup, ont une validité scientifique, qu'elles ont été validées par la Haute Autorité de Santé, qui, par contre, en effet, a désavoué toutes les méthodes basées sur la psychanalyse, qui sont officiellement désavouées par la HAS, et pourtant, c'est ce qu'on continue à rembourser et à préconiser en France.
Vous êtes scolarisé. Quel est le regard des autres enfants sur votre handicap? Est-ce qu'ils comprennent le handicap?
Alors,
par exemple, au CP.
Au CP, le problème, c'est que vu qu'on n'est pas dans une école inclusive, dès la plus jeune enfance, du coup, les enfants qui, eux, ne sont pas dans un handicap, ne sont pas formés à la différence, ils ne sont pas exposés à la différence.
Donc, ils ne connaissent pas le handicap.
Ils ne connaissent pas le handicap, et vu que le corps enseignant ne le connaît pas non plus, enfin ne veut pas le connaître, du coup, ça crée une société où, dès le début, les jeunes enfants deviennent très cruels parce que dès qu'ils voient la différence, ils ne comprennent pas. On leur a toujours finalement expliqué que c'est quelque chose qui devait être caché. Enfin, on ne leur a même pas expliqué, mais c'est ce qu'ils, c'est la conséquence. Si on veut construire une société ouverte sur le monde, une société tolérante et qui est basée sur les valeurs de la République, égalité, liberté, fraternité, j'invente rien, ça commence dès les fondements à faire en sorte que les enfants soient ouverts à la différence et donc à faire une école ouverte sur la différence, une école inclusive pour la plupart des personnes. Et c'est seulement là où on pourra commencer à espérer avoir une société plus tolérante, plus ouverte.
Arrêtez-moi si je me trompe, Hugo, j'ai l'impression que les enfants et les adolescents sont plus ouverts.
Aujourd'hui, les bonnes surprises que j'ai, c'est que je vois que dans le spectacle, il y a beaucoup de classes qui viennent nous voir. Il y a beaucoup de classes et quand ils viennent, c'est vrai qu'ils se... certains se reconnaissent parce que, justement, c'est souvent ce que je dis, le spectacle, c'est pas un spectacle sur l'autisme, exactement. Bon, comme mon livre n'est pas un livre sur l'autisme, d'ailleurs, je n'emploie pas ce mot une seule fois dans mes lignes, c'est avant tout un spectacle sur la différence. Parce que chacun qui soit passé par l'autisme ou pas, a, à un moment donné, dans sa vie, a pu se sentir exclu d'un groupe, avec l'impossibilité de pouvoir arriver à y trouver sa place, de s'être senti incompris. Et c'est plus un spectacle, en effet, là-dessus, sur cette universalité-là du sentiment de la différence, du sentiment du décalage. Et vu que chacun se sent décalé, tous les élèves qui viennent voir le spectacle, les écoles et puis les adultes aussi, finalement, se reconnaissent tous, en fait. Et c'est là où, finalement, tout le monde se reconnaît en se disant « Mais oui, en fait, on est tous un peu différents. »
On est tous un peu différents. Et quel retour avez-vous des adultes et des adolescents qui viennent vous voir, car le spectacle, c'est à partir de 12 ans.
Les retours sont très très bons. On a des très bons retours critiques et publics parce que, en effet, chacun, à un moment donné, arrive en effet à se reconnaître, à s'identifier dans cette histoire. Chacun a vécu ça, chacun puisqu'évidemment, on parle de l'école, on parle de l'exclusion, on parle justement de cette école normative, froide, qui
ne comprend pas la différence.
Qui ne comprend pas la différence et surtout qui l'assassine, qui est dans un projet d'assassinat de la différence, au
vous
nom de la différence.
Assassine.
Ah oui, pour moi, la différence est absolument assassinée dans notre pays, dès l'école, et c'est absolument scandaleux.
À 18 ans, le théâtre, on peut dire que c'est le théâtre qui vous a sauvé, qui vous a sorti de cet handicap, non?
Alors, le théâtre... l'autisme, oui, on le détermine officiellement comme un handicap. Après, on ne sort jamais de l'autisme. C'est-à-dire que l'autisme étant génétique, vous naissez autiste et vous le restez. La question, c'est d'arriver à vivre avec, d'arriver à composer avec ce qu'on est.
Et vous vivez bien maintenant, aujourd'hui, avec.
Oui. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, et aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup de batailles aussi.
Grâce à votre mère, on le rappelle.
Grâce à ma mère, et puis ensuite qui m'a donné les armes pour pouvoir ensuite aller, enfin un jour partir et trouver un projet formel de ma vie.
S'ouvrir aux autres, surtout.
M'ouvrir aux autres, être capable de m'ouvrir à l'amitié, à faire confiance, à construire des projets, à vivre en société. Et donc le théâtre, en effet, a été fondamental pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le théâtre à l'âge de 15 ans, la pratique du théâtre m'a tout de suite paru, semblait familière parce que à l'âge de 15 ans, j'étais arrivé, après, à force d'avoir fait ce travail sur moi, à devenir indétectable, insoupçonnable au niveau de ma présentation. C'est-à-dire que on ne pouvait pas, il fallait vraiment avoir un œil très avisé pour pouvoir dire peut-être que j'étais dans le spectre autistique. Puisque j'arrivais donc en société à être totalement, en fait, finalement invisible. Et ça a été un travail où j'ai dû faire un travail de composition sur moi-même. Et quand j'ai découvert le théâtre, vu qu'il s'agissait aussi finalement de jouer, vu que j'avais passé mon temps à m'inventer, à me créer un personnage social, socialement apte à exister, c'était un travail de comédien, bah finalement le théâtre m'a paru une pratique
assez simple,
très familière. Ça m'a semblé très familier et finalement bah c'est ce que je raconte aussi dans L'Empereur, c'est moi, c'est que c'est aussi l'histoire de la naissance d'un comédien.
Ce comédien, il est comédien 24 heures sur 24 ou maintenant c'est vraiment votre vie?
Alors,
tous les jours.
Si vous voulez, le travail d'acteur, c'est que donc il y a la répétition et ensuite on joue. Et en fait, un acteur, il répète parce que au bout d'un moment, quand il va jouer, il faut plus que le travail se voit. Et quand on répète tellement, c'est que les choses deviennent après des réflexes. C'est comme un conditionnement, c'est-à-dire que plus vous répétez, au bout d'un moment, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites votre représentation, c'est devenu un réflexe. C'est la somme de tout ce travail-là. Et le but, c'est qu'évidemment que le travail ne se voit plus. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'âge de 15 ans, par contre, j'étais arrivé à gommer tous mes symptômes, mais par contre, je me sentais absolument finalement prisonnier d'une enveloppe que j'étais arrivé à créer, et c'est seulement quand j'ai commencé à replonger dans mon histoire, quand j'ai cessé de me cacher ce que j'étais, puisque je cachais l'autisme ensuite de 15 à 30 ans, j'ai passé cette période à l'étouffer totalement. Je l'ai étouffé parce que je ne voulais plus y revenir. J'avais tellement été stigmatisé à cause de ça, j'avais tellement souffert à cause de ça que je ne voulais plus être officiellement détectable en tant qu'autiste. Et donc je l'ai caché et j'y suis revenu seulement avec l'écriture du livre, ensuite le spectacle, pour raconter mon histoire, parce qu'on doit faire avec ce qu'on est, on ne doit. Et donc c'est là, seulement là, où j'ai pu, en fait, finalement complètement prendre conscience et assumer en fait de ce que je suis et ce que je vais continuer à être.
Votre changement de nom de Julien en Hugo est arrivé à l'âge de 15 ans ou un peu avant ou un peu après?
Ah, c'est bien avant. Quand j'ai demandé à ma mère de changer de prénom, c'était à l'âge de 6 ans.
C'est-à-dire de 6 ans.
Oui, j'étais non-verbal jusqu'à l'âge de 6 ans, puis à l'âge de 6 ans, voyons que ma mère se démenait pour que je sois capable de communiquer dans le monde. Je ne voyais pas l'intérêt de communiquer dans ce monde, je ne voulais pas communiquer dans ce monde, ça m'effrayait au plus haut point. Mais voyant que ma mère se démenait pour que je le fasse, je me suis dit, bon, si elle le fait, je lui fais confiance et que ça doit être absolument nécessaire. Donc, mais je ne peux pas y aller sous mon actuelle identité, qui était donc celle de Julien, cet enfant autiste qui, et donc j'ai demandé à ma mère,
renfermé sur lui-même,
voilà, et je me suis dit il faut que je m'amuse, que je joue à être quelqu'un d'autre, il faut que je compose quelqu'un d'autre, et donc je demande à ma mère de changer de nom, et je lui dis donc Julien est mort, il est enterré dans la terre noire, il n'était pas très intéressant, je veux un autre nom. Et là ma mère au début elle prend peur, elle se demande si elle va pas rappeler l'hôpital, et finalement heureusement elle est rentrée dans mon jeu, elle a accepté d'entrer dans mon jeu, donc elle me rebaptise Hugo, elle me nomme Hugo, qui est tout simplement mon nom suivant sur la carte d'identité. Et à partir de là, je me suis fait appeler Hugo, et Hugo était celui qui allait être le personnage social, le personnage capable, une composition presque. Et je me suis amusé avec ça, un peu comme une marionnette, un marionnettiste, si vous voulez ce que je veux dire.
Est-ce qu'on peut dire que Hugo remonte à la surface?
Oui, alors Hugo était celui de la surface, c'était le personnage de la surface, et à un moment donné, il a fallu un peu reconnecter les deux bouts, quoi. C'était reconnecter la surface aux profondeurs et retourner dans les abîmes pour ressusciter le fantôme de Julien qui va ressusciter ce soir au théâtre à l'Île-Dieu.
Toutes ces étapes sont racontées dans le spectacle et dans le livre?
Toutes ces étapes, en effet, sont, dans le spectacle, on a quand même beaucoup coupé, hein, parce que le spectacle fait 1h15, et puis le livre n'étant pas une pièce de théâtre à la base, il y a des passages qui sont injouables, qui ne sont pas faits pour la scène, donc on a fait une grosse adaptation, donc on joue à peu près peut-être un dixième ou un cinquième du livre, parce que sinon on aurait un spectacle de 6h et c'était pas le but, hein.
Cette adaptation a été travaillée avec Vincent Poirier.
Et Nicolas Rivals, donc, s'est occupé de l'adaptation, Vincent Poirier et à la mise en scène, et donc ce spectacle qui au début était un seul en scène est devenu un duo avec l'actrice Clémence Collin qui joue la même pièce que moi, mais
qui est présente sur l'Île-Dieu,
qui est maintenant dans toutes les dates, c'est-à-dire que le spectacle est un duo, c'est-à-dire qu'à la base on devait faire une date signée pour un théâtre. Et donc Clémence Collin est une comédienne sourde et qui parle donc la langue des signes.
Et elle fait le spectacle en langage des signes.
Voilà. Alors donc on devait avoir une date traduite en langue des signes. Donc on a fait appel à Clémence mais tout de suite on n'a pas eu envie de faire quelque chose, d'être comme sur la chaîne parlementaire avec elle à côté en train de signer et puis moi en train de jouer. Non, c'est une comédienne. Donc on s'est dit
c'est
on va jouer ensemble.
Une actrice du spectacle.
Tout à fait. Donc elle est pas plantée là en train de signer. C'est-à-dire qu'elle vient jouer avec moi. Et et on joue ensemble, et en fait finalement elle joue la même pièce que moi, en même temps que moi, et, sauf qu'elle parle en langue des signes. Et donc elle fait danser ses mots, sa présence apporte quelque chose de fondamental au spectacle, qui est une forme aussi de légèreté. Elle se met à incarner tous les personnages de ma vie. Et qui sont en général plutôt les personnages féminins, donc à savoir ma mère, ma sœur, les premiers éveils amoureux, et elle aussi vient parler de la différence, puisque elle, la différence, elle connaît bien, puisque
elle
est sourde, et vous imaginez aussi tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa vie scolaire, dans sa jeunesse, enfin elle est toujours très jeune, hein, mais je veux dire, enfin dans le passé, et donc elle connaît bien la problématique de la différence, Clémence, elle connaît bien, et donc du coup on joue ensemble cette pièce, et Clémence maintenant est devenue une part indissociable du spectacle.
Elle joue aussi le rôle de Julien.
Elle joue tous les rôles. Oui. Enfin, le rôle de Julien, c'est plutôt moi qui le joue, si vous voulez. Clémence, elle, c'est plutôt toute la présence féminine du spectacle qui manquait. Ce sont les personnages féminins qu'elle se met à figurer, qui sont intervenus dans toute ma vie.
Les décors facilitent aussi la compréhension du spectacle.
Oui. Donc il y a quelques accessoires, il y a des décors, et donc les décors sont construits en fait sur l'enfermement. Donc la scénographie a été réalisée par Charles Altorfer. Et donc le décor, en fait, ça se passe dans des boîtes. Et tout est basé sur des boîtes. Voilà, c'est des boîtes qui s'empilent. Ça exprime un enfermement, et donc le but étant d'enlever tout ça. Ouais.
Christine Bittner, vous faites partie de l'association des parents d'élèves en difficulté scolaire. Pourquoi cette association a été créée sur l'Île-Dieu ?
Cette association a été créée sur l'Île-Dieu il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Parce que les mamans et les enseignants et les personnes qui s'occupaient d'enfants en difficulté scolaire, tous, sont aperçus qu'il y avait très peu d'aide justement pour les mamans, pour les personnes qui s'occupent de ces enfants-là, pour toutes les formalités qu'il faut faire pour obtenir justement
un statut.
Des rendez-vous pour aller voir tel ou tel spécialiste. Et après des discussions qui ont commencé dans les écoles, on s'est réunis un jour, les enseignants, les AVS, les gens qui avaient affaire à l'éducation et les parents, souvent que des mamans, en se disant que si on se regroupait, on pourrait s'aider et on pourrait... aider mieux les enfants en difficulté, et on pourrait aussi ensuite faire des circuits, montrer tout ce qu'on peut faire pour aller par exemple à la MDPH, quels sont ces circuits qui sont parfois des parcours du combattant, et aider, s'aider les unes les autres, et aussi avoir un espace lors de des réunions de parole où les gens qui ont les mêmes problèmes peuvent parler et se défouler entre guillemets, et puis
s'aider aussi, non,
s'aider beaucoup, oui, hein, et puis surtout essayer de comprendre, parce que quand on écoute les autres, quand on vient parler des problèmes qu'on a avec son enfant, eh bien ça soulage et ça permet de repartir avec un peu de courage et un peu de compréhension.
Voilà. Vous rejoignez souvent?
On se réunit en principe le deuxième jeudi du mois, tous les mois, et quelquefois un peu plus quand il y a quelque chose. Et puis on reste en général entre une et quelquefois beaucoup plus, 2 heures, 2 heures et demie. Et puis Carole Charouot, qui est notre présidente, est toujours et qui a aussi des enfants encore scolarisés, est toujours là pour noter ou dire qui a besoin de ci ou de ça. Et on peut toujours, en dehors des sessions, rencontrer quelqu'un et se faire aider et venir adhérer à l'association, qui a une adhésion de 10 euros qui est perpétuelle.
Comment adhérer ?
C'est très facile, il suffit de venir ou de contacter un des membres et de faire un chèque de 10 euros et on est membre à vie.
Hugo Riot, le spectacle est à partir de quel âge, L'Empereur c'est moi ?
C'est un spectacle tout public, sur la feuille c'est écrit plus de 12 ans, mais on a déjà eu des enfants de 7-8 ans qui, qui vivent un très très bon moment et qui rient beaucoup parce que c'est un spectacle fort, mais c'est aussi drôle. C'est-à-dire que on a tenu évidemment à ce que l'humour reste en permanence dans ce spectacle. Donc moi, la dernière fois, on a joué à Bordeaux. Il y avait un enfant qui était là, qui avait peut-être 7 ou 8 ans. Il a passé toute la pièce à être mort de rire.
Il comprenait le spectacle, 7 ou 8 ans?
Oui, en tout cas, il a compris ce qu'il voulait comprendre. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il, lui, il était mort de rire du début à la fin. Et donc, il a compris quelque chose. Moi,
vous savez pourquoi il était mort de rire ou pas?
Ah, je sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y parler après, mais c'est parce que aussi, des fois, il y a aussi une esthétique dans le spectacle au début qui est liée au monde de l'enfance. Donc, les enfants peuvent comprendre. Il y a, que ce soit dans les costumes, les déguisements. Parce que c'est vrai, quand j'étais petit, je me déguisais beaucoup. J'adorais ça. Et donc, dans le spectacle, tout ça ressort. Et les enfants comprennent parce que c'est aussi à eux qu'on raconte l'histoire. Donc c'est vraiment un spectacle tout public et donc y compris jeune public.
En fin de spectacle, vous restez pour dédicacer le livre, L'an prochain mois.
Oui, il y aura un bord-scène à la fin du spectacle où on pourra discuter avec toutes les personnes qui veulent rester pour discuter. Et puis, je ferai évidemment une signature à la sortie. Et puis, on boira tous un verre et on passera une excellente soirée sur l'Île-Dieu.
L'Empereur, c'est moi, c'est à découvrir ce soir à 19h30 au Casino. Merci Hugo Arroyo, à très bientôt.
Merci, à ce soir.
Merci Christine Mittner, à très bientôt.
À très bientôt, merci.